I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Elle.
Je veux pas être triste, je veux pas faire pitié, je veux rester sain, joyeux et jusqu'à la rencontre avec lui, je savais pas. Faut tout réinventer en fait. Je crois que lui me fait réapprendre mon corps et me fait réapprendre la sexualité sans voix.
Youkali, la chanson de Kurt Weill, raconte un pays utopique de plaisir et de bonheur où il n'y a rien d'autre que le moment à célébrer. Et c'est vers ce pays que Youkali courait quand elle a choisi ce pseudonyme en s'inscrivant sur un site de rencontre. Après avoir perdu la vue et s'être séparée de son compagnon, elle y croise le chemin d'un homme, beau, tendre. Il a 20 ans de moins. Avec lui, elle réapprend à séduire, à faire confiance, à se fier à l'instant pour accepter la femme qu'elle est devenue. Je suis Julia Dion. Bienvenue dans « Il était une première fois », un podcast de Elle.
Donc je crois que mon histoire, elle commence quand je me sépare. Donc on a deux enfants, moi je travaille beaucoup, on va passer 20 ans ensemble. Et puis il y a 3 ans, il y a 4 ans, je commence à avoir des vrais problèmes de vue. Pour me déplacer, pour écrire, et en très peu de temps je vais devenir aveugle. J'ai à ce moment-là 48 ans, donc je vais petit à petit apprendre à vivre en étant aveugle. Je commence à apprendre à lire et écrire toute seule, c'est-à-dire avec des fonctions vocales. J'apprends les gestes du quotidien, faire la cuisine, je sécurise les autres aussi sur le fait que ça va bien aller. Et puis je suis avec les enfants, il faut qu'ils se mettent aussi, eux, dans la peau de... Ils sont des jeunes ados avec une maman aveugle, célibataire. Ils sont pas très nombreux dans la cour d'école à être comme ça. Donc, tout ça est très exceptionnel. Et à un moment, quand je me suis un peu remise debout, un peu remise de tout ça, se pose la question de la vie amoureuse et de la vie sexuelle, en fait, les deux. Parce que je connais l'image que ça renvoie, une femme aveugle. Ça charrie un univers de représentation assez glauque, assez triste. Je ne peux pas m'identifier à ça. Les fantasmes, la libido, la sexualité, ça a toujours eu une place très importante dans ma vie. Le désir est quand même, je pense, à ce moment-là, lié à la vue. Est-ce que je vais perdre tout désir ? J'ai pas très envie même d'y penser, tellement ça me fait peur à ce moment-là. Je crois que ce qui me fait peur en devenant aveugle, c'est de plus être une femme. Dans le contact que j'ai aux gens, par exemple, tout change. Je parle des inconnus. La façon dont, auparavant, les hommes pouvaient me parler à une terrasse de café, dans la rue, etc. Tout à coup, tout change. Alors, est-ce que c'est dans ma tête ? Est-ce que c'est mes peurs ? Ou est-ce que c'est vrai ? Je ne saurais jamais. Mais en tout cas, c'est ça que je ressens. C'est que les gens, ils viennent pour m'aider. Ils me tapent sur l'épaule en me disant « bon courage ». Et donc, si je ne suis plus une femme dans le regard des autres, Je suis plus sujet de séduction, de drague, d'amour, de tout ça, quoi. Donc j'ai peur d'être sortie de ce jeu-là. Et je fais part de toutes ces angoisses-là, un soir, mais en rigolant, quoi. On est au café, je travaille avec des jeunes, en fait, ils sont 25, 30 ans, moi j'ai donc 20 bonnes années de plus. Vient le sujet de, ils me disent, bon ben voilà, maintenant, tu t'es retrouvé des repères au boulot, alors, est-ce que tu vas te remettre avec quelqu'un? Et je leur dis que j'en sais rien, en fait, et je leur dis que peut-être, et je pense qu'ils me connaissent et qu'ils comprennent peut-être aussi que dans tous ces rires-là, il y a un peu de peur. Et il y en a une qui dit, mais il faut que tu te mettes sur un site de rencontre. Alors moi, comme je suis... j'ai vécu 20 ans avec le père de mes enfants, j'étais plutôt entourée de couples, j'étais pas du tout là-dedans, quoi. C'était un truc qui faisait un peu de la peine, en fait, de se retrouver sur un site de rencontre. Donc voilà, je leur dis ça et... C'est pas pour moi parce que j'ai l'âge que j'ai, et puis c'est pas pour moi parce que je suis aveugle, quoi. Et ce soir-là, je dîne avec mon ami Mathieu, et puis je lui parle de cette histoire. Voilà, ils m'ont dit que je devrais me mettre sur une appli de rencontre. Il me dit, bah, bien sûr qu'il faut que tu te mettes sur une appli. Je suis en même temps en train de lui dire, non mais arrête, enfin... Et là, je sais pas, ça va très vite, en fait. Il prend son ordi, il me fait, bon, allez. Et en même temps, je réponds à ses questions pour... remplir le profil. Ce qui me plaît, c'est que ça se passe pas comme j'imaginais. En fait, c'est un peu décalé, ce que je trouvais assez rigolo, donc on s'amuse bien à remplir ça. Je dis une phrase, tenter des trucs nouveaux. Voilà, je dis tenter des trucs nouveaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, en fait, je me dis, bon, bah, eux, ils savent pas très bien de quoi je parle, mais et moi, je sais, quoi. Donc, en tout cas, on s'amuse bien à remplir ça. Je suis sûre que ça donnera rien. Je suis d'autant plus sûre qu'on n'a pas marqué que j'étais aveugle et qu'à un moment, Mathieu me demande et je lui dis, bah, non. Enfin, ou c'est lui. Enfin, en tout cas, on ne l'a pas marqué. Enfin, de toute façon, pour moi, c'est vraiment une blague. Et Mathieu me dit, bah, ça y est, tu vois. Et voilà, t'as déjà, je ne sais pas combien de matchs. Et donc, il commence à aller de l'un à l'autre, des photos, à me décrire tout ça. Je fais, non, mais attends, j'ai... Et il me dit, oh, lui, il est trop mignon. Il a 28 ans. Et je dis, non, mais attends, il a 20 ans de moins que moi, là. Et il me dit, bah, et alors, il est trop mignon. Donc, il commence à me le décrire, comment il est. Il me dit, c'est un homme grand, il est noir. Il porte un t-shirt blanc sur la photo. Il dit, lui, je fais, non, mais laisse tomber. Enfin, il a 20 ans de moins. Et il me dit, non, mais il ne faut pas que tu t'arrêtes à ce genre de truc. Hein. Tu lui plais, il te plaît, on y va. Et bon, bah, tant qu'à rigoler, allons-y. Et je commence à communiquer avec ce garçon. Lui m'écrit quelque chose. Et donc, c'est Mathieu qui me lit ce qu'il me dit. Et waouh, moi, c'est la première fois qu'il y a un inconnu qui me parle comme ça par Internet. Donc... Je suis complètement éberluée, quoi. Ouais, non, mais c'est si simple que ça, en fait. Donc, me voilà à réfléchir, qu'est-ce que je réponds à bonsoir. Et donc, on répond tous les deux. Je suppose que je dois répondre aussi bonsoir. Moi, je dis que t'es Mathieu écrit. Et on va comme ça se lancer dans un dialogue. Et en fait, il est hyper sympa. Et il est. Et je m'attendais aussi. Alors, pardon pour une image peut-être complètement. Je sais pas, à côté de la plaque, quoi, mais je m'attendais vraiment à un truc assez trash. Et en fait, pas du tout. C'est hyper doux. C'est une rencontre, je sais pas, il est très chouette, avec des petites intentions très douces, enfin, très gentilles, des petites questions très sympas. Enfin, voilà, donc Mathieu écrit, je lui dis que tu l'écris, et il me lit. Et à un moment, Mathieu me dit, tiens, c'est peut-être là, tu peux répondre que t'es aveugle. Je lui dis, je vois pas ta photo parce que je suis aveugle. Et je pense que je me justifie tout de suite en disant, j'ai perdu la vue il y a pas longtemps pour le rassurer, lui montrer que, oh là là, attention, je suis quelqu'un de normal, je suis comme toi, je vois le monde, c'est tout frais, etc. Et il me dit, ok. Et ça me... En fait, du jour où il me dit ça, je... C'est complètement banal, mais Je crois que j'avais une tempête dans la tête sur ce sujet-là et que par un tout petit mot, il vient de l'apaiser complètement. Il y a quelque chose qui vient, c'est la mère tourmentée qui tout à coup s'apaise et devient lisse au soleil et ça va en fait, ça va être possible ma vie. Vient de me dire, ben, et ça change quoi? Ça fait écho à ce que je ressens moi. C'est vrai que c'est pas grave, mais j'ai tellement peur que ça soit grave pour les autres et que ça me condamne complètement dans le regard des autres, que quand on vient me dire c'est ok, c'est pas un souci, ça me... ouais, ça va mieux. On commence à aller vers des échanges un peu sensuels. Je vais pas faire ma sainte Nitouche, c'est pas que lui. C'est-à-dire que je lance des perches qui saisissent, en fait, pour arriver à quelque chose de timidement sensuel, de son côté et du mien. Je lui demande trois choses qu'il aime. Je crois qu'il me dit quelque chose comme la mer, les sandwichs, je crois, quelque chose comme ça, et faire l'amour. Et il me dit, et toi? Et je lui dis deux autres conneries. Je lui dis, et faire l'amour. Et il me dit, ah bah c'est cool, on a un point commun. Et donc ça commence comme ça, je crois, donc très, très gentiment, quoi. Ça continue comme ça, et puis au bout d'un moment, le problème, c'est que Mathieu est fatigué. Et qu'il me dit, écoute, là, moi, il faut que j'aille me coucher. Il est quand même 1h30 ou quelque chose comme ça, ça fait quand même 2 bonnes heures qu'on doit discuter avec lui. Et ouais, je comprends, mais moi, j'ai envie de continuer, mais je peux pas. Ben donc on va se coucher, je lui dis bonne nuit, je lui dis que je... Alors évidemment je lui ai dit à aucun moment lui qu'il y avait Mathieu, parce que c'est assez compliqué de dire bon ben écoute je suis ravie de te rencontrer, on est deux de notre côté, je suis en train de dicter à un pote, donc je lui dis pas et je lui dis on va se coucher, je vais me coucher et voilà, à bientôt. Donc ça c'est la fin de la première soirée. Donc je rentre à la maison et finalement j'appelle mon copain Pascal qui habite à Strasbourg. Et je lui raconte le truc, donc il s'amuse, ça le fait rire. Et je lui dis, ben en fait, je lui dirais bien bonjour à ce garçon et comment il va et tout ça, mais je peux pas le faire. Il me dit, bon, ok, allez, amène-moi les codes, on y va. Et donc, par téléphone, donc il y a le garçon, je sais pas combien de kilomètres, moi, chez moi, mon ami Pascal, à Strasbourg, nous revoilà repartis en communication. Donc toujours, évidemment, le garçon sait pas qu'il y a une tierce personne, et on rediscute, etc., puis ça dure comme ça, et puis finalement je vais avoir après le même problème avec Pascal, c'est qu'il n'est pas non plus disponible, et donc là je vais faire appel à mon amie Pauline, ma voisine, et donc ça fait rire tout le monde, et puis ça devient toute une équipe qui travaille à communiquer, en fait on est pratiquement sur une plateforme d'écoutant, et voilà, et on communique avec lui. Et à un moment... je me sens prête à lâcher leurs mains et je me rends compte que je peux y arriver toute seule. Si j'appuie sur mon téléphone, ça me lit tout à haute voix ce que lui a écrit. Et puis après, je peux écrire moi comme d'habitude en dictant au téléphone. Et puis après, il me répond et puis je touche le petit bouton envoyer, ça envoie, etc. Enfin, je me rends compte que je peux le faire toute seule. Ce qu'il y a de nouveau dans le fait de parler seule avec lui, c'est... une redécouverte de l'intimité. L'intimité dans la relation à un homme. C'est-à-dire que tout à coup, bah, j'avais une relation intime avec un homme en étant... C'était la première depuis que j'étais célibataire. Et c'est la première célibataire aveugle. Et comme, en fait, dans ma vie, dans ces années-là, c'était tout un sujet, l'intimité, parce que j'avais presque plus d'intimité, puisque je ne pouvais pas sortir seule, je ne pouvais pas faire un achat seule, je ne pouvais pas écrire seule, je pouvais... En fait, les moments d'intimité étaient devenus rares et tout à coup, je me retrouvais dans un immense moment d'intimité. C'est-à-dire que une relation avec un homme où je pouvais tout dire, personne regardait, personne écoutait et il n'y avait que lui et moi. On ne parle pas du fait que je ne vois pas, ce n'est pas un sujet, juste il s'adapte complètement et il se trouve qu'il est extrêmement sensuel. C'est-à-dire dans son écriture... C'est ouf, ça, il me fait monter des espèces de bouffées de troubles parce qu'il écrit bien, parce que tout est, on n'est pas encore dans quelque chose d'érotique, mais c'est extrêmement troublant. On se parle un peu tous les jours. Je crois que ce qu'il y a de magique aussi, c'est que lui est arrivé en France il y a peu. Donc, il est aussi dans la découverte d'un nouveau monde, comme moi. On parle de goût, d'odeur, on parle de... La conversation devient... elle passe du sensuel à l'érotique. Je ne suis pas aussi à l'aise que lui. Il émet des mots qui ne sont pas crus et qui sont juste ton corps, ton désir, tes fantasmes. C'est normal, c'est sain, raconte-moi ça. Et on commence à avoir une relation érotique, en fait, et on se téléphone. Il a une voix évidemment incroyable, donc ça fait toujours peur la voix, parce que ça peut tout casser ce qu'il y a avant, et là, au contraire, c'est... je l'aurais inventé, ça n'aurait pas été mieux, quoi. Elle est hyper chaude, elle est hyper douce, elle est légèrement rocailleuse, et il a un rire qui me fait fondre, donc Et il a cette même aisance... j'allais dire juvénile, ouais, il y a quelque chose de très frais, de très nature chez lui, de très dégagé, de plein de freins, d'empêchements, de honte que peut-être moi j'ai plus que lui. J'ai l'impression qu'il n'a jamais entendu parler du fait que, on a beaucoup entendu ça dans l'éducation, ça se dit pas, ça se montre pas, etc. C'est comme si lui, il n'était jamais passé par là. Tout ça est hyper naturel et il est très libre, en fait. Il est extrêmement libre, voilà. Et donc, il m'amène dans cette liberté-là. En fait, on fait l'amour par téléphone, ce que j'avais jamais... Mais alors, vraiment, j'avais jamais fait ça. J'aurais jamais pensé non plus le faire. Et je trouve ça d'un érotisme brûlant qui me... Oh ! C'est lui qui écrit le scénario qui guide. Et c'est lui qui m'invite à prendre la main. Mais à chaque fois, je dis, mais tu fais ça beaucoup mieux que moi. Et tout notre univers, c'est toi qui l'écris, en fait. Donc, je t'écoute. Mais il amène une puissance de désir, de fantasme, de plaisir qui est complètement... c'est joyeux, c'est léger, c'est hyper intense. Comme plein de gens font, en fait. C'est-à-dire, tu vas... atteindre le plaisir les yeux fermés, seul dans ta tête, en fait. Très souvent, t'as pas forcément besoin de la vue. Et j'adore son univers, j'adore ses images, j'adore tout ce qu'il invente, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, ça doit faire un mois ou deux qu'on se parle. Et lui, il me dit, ça serait bien quand même qu'on se voit. Et je lui dis dès le début que j'ai peur. En fait, je lui dis parce que je me sens très bien avec lui, parce qu'on est en confiance. Je lui dis, écoute, j'ai peur, en fait. J'ai jamais fait l'amour avec un mec depuis que je vois pas. J'ai passé 20 ans avec le même homme et reprendre avec quelqu'un d'autre, ça fait trop, en fait. L'un plus l'autre, ça fait trop. Puis je pars un jour en festival. Toute une journée, il fait hyper beau, on est auprès d'un lac, il y a de la musique. Il y avait un peu des amis, un peu des gens que j'avais avec qui j'étais là pour ce projet dans le festival. Et donc, on est tout enfin, en fait, on ne se connaît pas si bien que ça. Il se passe cette ambiance assez magique où tout à coup, un groupe se forme avec des gens qui ne se connaissent pas trop, mais on vit un moment génial, donc c'est très fort. Et on a passé toute la journée ensemble. Le soir arrive, il y a encore de la musique. Et lui... Il m'écrit à ce moment-là et je lui dis, là, je peux pas. En plus, j'ai jamais moi assis à quelqu'un juste à côté. Et il me dit, mais moi, j'ai envie de faire l'amour avec toi maintenant. Je dis, ah ben ouais, mais là, vraiment, moi, oui, moi aussi, mais là, c'est pas possible. Et il me dit, mais t'as qu'à t'éloigner un tout petit peu, tu vas un tout petit peu plus loin dans le bois. Je dis, mais attends, si je vais dans le bois toute seule, je vais jamais revenir, je vais me perdre. Et comme il me fait rire et qu'on... Voilà, je demande à quelqu'un si je peux pas juste être accompagnée un tout petit peu plus loin dans le bois et vous venir me rechercher après, mais juste j'ai un appel à passer. Donc quelqu'un fait ça et en fait, je dis, mais t'es vraiment insupportable. Hein. Et en fait, de toute façon, une cheville qui me lance là-dessus et ça part tous les deux. Et donc, on se fait une espèce de... Je sais pas, en fait, il y a un truc très... Un moment de charnel très fort comme ça, en plus, en pleine nature. Et il me dit, tu sais, j'ai vraiment envie de te voir. Et je reviens avec mes amis autour du feu et la soirée se poursuit et on repart en voiture. Je leur dis, je vous raconte un truc qui m'arrive, je suis depuis 2 mois en train de discuter avec un gars et j'ai jamais vu. Et là, ils voudraient me voir, mais ils disent, bah, pourquoi tu lui dis pas de passer chez toi là en arrivant ? Je dis, mais d'abord parce qu'il est 2h du matin, ensuite parce que je ne le connais pas, ensuite parce que je suis aveugle, ensuite parce que je n'ai pas refait l'amour avec un homme depuis ma séparation, ensuite parce que... et en fait, il me dit, en fait, parce que tu n'as aucune raison, donc fais-le. Et je lui laisse un message, je dis, écoute, je rentre à la maison, t'as qu'à me rejoindre. Et il me dit, ok. Mes amis me déposent là. Alors forcément, sortie de la voiture, de l'euphorie, de la musique, me retrouvant seule chez moi avec l'idée qu'il va arriver, j'ai une bonne montée de panique. Et je me dis, mais je vais mourir en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mourir. Et si ça se trouve, il ne va pas venir tout seul. Il va venir et ils seront 10. Et si ça se trouve, en fait, c'est un fou. Et si ça se trouve... Donc je pars là-dedans et je suis mais moitié terrorisée, moitié hyper impatiente, mais plus terrorisée quand même. Hein. Et puis ça se trouve, je vais pas lui plaire. Tout me fait peur en fait. Tout me fait peur parce que le fait de pas voir, c'est accepter de pas avoir le contrôle. C'est-à-dire la façon dont il va bouger, la façon, ce qu'il va faire, je ne sais pas. En fait, le fait de pas voir fait que t'es obligé d'avoir une confiance totale dans l'autre. Et de mon côté aussi, en fait, tu te... Ben, j'ai vu, hein, donc je sais bien que tu te contrôles vite fait dans le miroir pour voir si tout est comme tu veux, que tu contrôles ta tenue, que tu contrôles tes gestes, que voilà, pareil, ça, je peux plus le faire. Voilà, je perds beaucoup de contrôle et il faut que je sois dans la confiance. Et j'ai perdu, moi, la confiance. Il faut que je choisisse le programme musical. Non, je ne mets pas de musique. Bah, si je veux mettre de la musique, attends, je vais allumer une bougie. Non, mais si je allume une bougie, en plus, moi, je vais mettre le feu à la maison. Je ne vais même pas m'en rendre compte. Donc, je ne mets pas de bougie. Puis, en plus, bougie, ça fait quand même genre, j'ai un peu préparé le truc. Non, je ne mets pas de bougie. Mais il faut, par contre, il faut que je me lave. Et est-ce que je me maquille? Mais je ne peux pas parce que je vais en faire. Enfin, je me maquille toujours un peu. Donc, est-ce que j'en mets plus ou moins? Non, mais je n'ai pas intérêt à changer. Parce... Bon. Et voilà, ça sonne à la porte. Et je suis tétanisée. Et j'y vais. Et ça me bouleverse. Ça me... Alors, c'est un des trucs qui m'a toujours beaucoup interrogée, c'est que moi, toutes mes histoires d'amour, elles se sont faites au premier regard. À chaque fois, j'ai croisé le regard de la personne et je savais, et il savait, et c'était parti. Et ça s'est toujours passé comme ça. Et là, j'ai plus ça. Et j'ai envie de dire que c'est pareil, je sais pas pourquoi. Mais au premier, comment on peut appeler ça si c'est pas un regard, c'est pas un contact, puisque c'est pas, on se touche pas. Dès que je suis en face de lui, c'est l'équivalent du premier regard, c'est la même chose. Je sais que c'est lui, quoi. Je sais que ça va le faire. Je sais que c'est bien. Et c'est génial de reconnaître sa voix. C'est génial qu'il soit là. Cet homme me bouleverse et me bouleverse de désir. Je suis complètement embrasée, vraiment. Et donc, je l'embrasse, partout. Ouais, j'ai un appétit de lui très fort, et littéralement, il faut bien reconnaître, je me jette un peu sur lui, ouais. Mais je m'aperçois tout de suite que lui, non. Et ça me fait un énorme chaud-froid, paf, ça redescend direct. Il se laisse faire. Mais il est presque passif, en fait. Et je me dis, waouh, ok, il vient de... Bah, bien sûr que je ne lui plais pas, putain, j'ai... Et donc, tout revient, je suis aveugle, j'ai 20 ans de plus que lui. Bien sûr que je ne lui plais pas. Et que, comment j'ai... Bon. On est debout. On est vraiment debout dans l'entrée. Et donc, je lui demande, en fait. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Mais je m'attends à... Au pire, en fait. Et il me dit, écoute, tu m'as dit que t'avais peur, donc tant que tu me demandes pas de te toucher, je te toucherai pas. Et j'ai entendu plein de trucs sur le consentement aujourd'hui, et plein de gens qui disent à quel point ça te tue, le désir, la sexualité, d'avoir cette question du consentement. Mais c'est tellement faux. ça me fait littéralement fondre définitivement, s'il fallait encore. J'adore cet homme dans ce qui montre de plus beau de l'humanité, quoi. Le lien à l'autre, où t'as envie d'être... voilà, de faire du bien à l'autre. En fait, la sexualité, c'est d'abord ça, je trouve. Et voilà, et ça me... Donc je lui dis que oui, je veux qu'il me touche. Et donc là, ça délie tout son corps, et il me prend dans ses bras, et il m'embrasse, et voilà. Dans mon souvenir, j'ai jamais vécu avant, évidemment, mais plus non plus après. J'ai jamais vécu une nuit comme ça, parce que je crois que c'est comme s'il avait compris ce qui se jouait. C'est-à-dire que je vais le déshabiller, moi, il va se laisser faire, et je vais le caresser, mais le toucher aussi partout. Moi, j'ai besoin de comprendre ce que c'est de voir un homme nu sans le voir. J'ai besoin de comprendre comment mon corps réagit, quels sont mes repères, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, est-ce que la vue me manque, qu'est-ce qui joue, comment ça se passe. C'est comme s'il avait compris ça et qu'il se laisse complètement faire. Il me laisse tout mon temps, en fait, pour cette exploration-là. Quand je le touche, quand je le caresse, je suis complètement dans la sensation. Et quelque part, c'est assez génial d'un point de vue sensuel. C'est complètement fou parce que je suis perturbée par rien d'autre. Enfin, je suis que dans cet échange-là, dans le corps à corps, dans mon corps touche le sien, son corps touche le mien. On n'est que là-dedans. On n'est pas perturbé par autre chose. On n'a pas de... On n'est que dans cette émotion-là. Ah ben je crois qu'à un moment, il sait, je sais que ça y est. J'ai les éléments, je sais où on est, je suis sécurisée, je le vois. En fait, j'arrive pas à trouver un autre mot, mais c'est ça. Je sais qu'à un moment, je pense qu'il sait que ça y est, je le vois avec mes mains, avec mon corps. Et il devient acteur aussi de Il me caresse et il prend lui aussi ses marques et on est deux à le faire en même temps, quoi. C'est comme si, du coup, il y a toujours, en fait, un peu de peur dans l'acte sexuel, sans doute un peu, d'atteindre le plaisir, que l'autre atteigne le plaisir, etc. Et en fait, comme on l'avait vraiment évacué, poussé loin de nous, la peur, alors on était seulement dans le plaisir, quoi. En fait, bah voilà, c'est typique. En fait, je revois le lever du soleil par la fenêtre, mais en fait, non. Faut à nouveau que je me rappelle, non, je vois pas. Donc je l'ai pas vu. Il me l'a décrit. Et voilà, on est encore restés ensemble. Et puis après, il est rentré chez lui. Je crois que j'ai mis 3-4 jours à redescendre. Il a réparé quelque chose que j'avais peur qu'il craque, qu'il a fait en sorte que c'est passé crème, comme on dit. Donc là-dessus, j'ai un amour très fort pour lui et éternel. Et en fait, je crois qu'il est avec moi jusqu'à la fin de ma vie pour de vrai. C'est-à-dire qu'il est encore là, qu'on ne s'est jamais quitté depuis, qu'on est resté toujours connectés, que maintenant il vit à l'étranger. Bah, si je l'appelle à 3 heures du matin, chez lui, c'est la journée. Donc ça veut dire que des fois, quand je me réveille en pleine nuit, quand j'ai, je sais pas, une insomnie, n'importe quoi, je l'appelle et il est là. Et je suis là aussi pour lui. Et c'est devenu une relation, réellement, j'ai l'impression qu'on veille l'un sur l'autre. On n'est pas en couple, hein. Mais on est encore ensemble, voilà. Avec ce que ça veut dire, c'est-à-dire ensemble, ça veut dire que tu marches avec... des gens dans la vie, il y a des gens qui te suivent dans la vie, il y a des gens qui marchent avec toi longtemps, et c'est ça pour moi, être ensemble, comme avec Mathieu. Enfin, évidemment, c'est pas du tout les mêmes relations, mais on s'accompagne. Alors après j'ai changé, je me suis transformée, il s'est passé plein de trucs, j'ai vécu d'autres histoires, mais c'est avec lui, je crois, que je me suis créée femme aveugle cette nuit-là. Femme aveugle avec sensualité, avec désir, avec séduction, avec rire, avec tout ce que j'avais peur de perdre.
Cet épisode « Il était une première fois » a été tourné par Juliette Proutot. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. À bientôt.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.